Chers auditeurs et chères auditrices, nous continuons notre série, qui est la deuxième série, concernant le salut. Nous en sommes à l'étude numéro 4, et le titre sera « Dieu est-il mort ?» Chers amis, j'aimerais partager avec vous quelques réflexions à propos de l'existence de Dieu. Il est devenu fort à la mode de rejeter l'idée même de l'existence de Dieu. Le mot « athée » qui sonnait étrangement dans un passé récent fleurit à présent sur de nombreuses lèvres. Certains philosophes ont beaucoup contribué à cet état d'esprit de plus en plus anti-Dieu. Le philosophe Nietzsche a dit « Dieu est mort, nous l'avons tué ». Il est important d'ajouter qu'à la place de ce Dieu défunt, Nietzsche s'est empressé d'installer un nouveau Dieu qu'il appelait le super-homme. « Je vous enseigne le super-homme, dit-il. L'homme est quelque chose qui doit être surpassé. » Quelqu'un a fait remarquer que la première démarche de l'athéisme philosophique était tout simplement de nier Dieu et la seconde de mettre l'homme à sa place et de dire « Vous serez comme Dieu. » Quand l'homme a rejeté Dieu de sa pensée et de sa vie, il se créa un univers de divinité qui lui semblait plus facile à servir que le vrai Dieu. André Malraux a parlé à diverses reprises de ce faux Dieu. Au mythe de Dieu et d'une âme immortelle, disait-il, le monde moderne, dans son impuissance radicale, n'a su opposer que les mythes dérisoires de la science et du progrès. Lorsque les dieux meurent et que les systèmes de valeurs s'écroulent, l'homme ne retrouve qu'une chose, c'est son corps, le domaine de ce qui est physique. Alors il y a la drogue, le sexe et la violence, qui sont les substituts naturels et la disparition des dieux. Il y a 3 siècles déjà, un peu plus maintenant, le célèbre penseur Blaise Pascal constatait la même chose en ces termes. Lorsque les hommes se retournent, ou se détournent plutôt de Dieu, eh bien il leur faut soit se prendre eux-mêmes pour des dieux, soit s'ils sentent l'absurdité d'une telle prétention, c'est de retourner à l'animalité et ne plus chercher désormais que des satisfactions charnelles, la mégalomanie ou l'érotisme, le poing serré ou la phalange, c'est-à-dire le phallus. Chers amis, voyez-vous, l'homme a vraiment besoin de Dieu et ce besoin est même inscrit dans sa nature. La Bible nous dit que Dieu lui-même a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Il existe une idée universelle de Dieu qui n'a pas été fabriquée par l'homme, alors que celle de sa non-existence est un produit de l'homme. D'où viendrait donc cette idée universelle si Dieu n'existait pas? Un éminent biologiste contemporain avoue combien cette question l'a troublé. La question de la foi, je me la pose chaque jour sans arrêt. J'ai dit non à Dieu en affirmant les choses un peu brutalement, mais à chaque instant, la question me revient. Et je me dis, est-ce vraiment possible? À propos du hasard, par exemple, je me répète, ce ne peut être le hasard qui combine les atomes. Mais alors quoi? Une chaîne de questions revient, toujours la même. Je les ressasse, je radote, on peut bien le dire. Je suis un obsédé, disons le mot, obsédé sinon par Dieu, du moins par le non-Dieu. Oui, chers amis, pour avoir mis Dieu plus ou moins poliment à la porte, l'homme du XXIe siècle souffre d'un vide très profond, et c'est là qu'interviennent aussi les sectes, les mages, les mouvements occultes et tout le reste des faux messies. Tous ces systèmes, plus ou moins ésotériques, sont en réalité des ersatz, des produits de remplacement du seul vrai Dieu dans le cœur de l'homme troublé. Ils correspondent dans leur recrudescence au désarroi des âmes dans une époque de soi-disant mort de Dieu. Le succès qu'ils connaissent partout actuellement est une réaction des esprits étouffés par un monde qui ne sacrifie plus qu'à Dieu, au Dieu de la technique et de l'argent. Là est tout le problème. S'ils rencontrent plus particulièrement du succès chez les jeunes, c'est parce que ces derniers, au seuil de l'âge adulte, sont beaucoup plus sensibles que n'importe qui à cette désagrégation des véritables valeurs spirituelles et morales et cherchent désespérément à échapper au vide et au non-sens de la vie qu'on leur propose. Un psychiatre et écrivain déclaré récemment au cours d'une interview, l'homme souffre de désirs insatisfaits et surtout d'une immense solitude. Et certains se demandent si après avoir accompli à sa manière un nouveau échec, notre époque ne serait pas malade de sa soif inavouée de divin. Le désir absolu de transcendance existe, même refoulé, même réprimé, il est prêt à ressurgir de façon imprévisible. Oui, le drame est accentué par la cruauté des idoles, des faux dieux devant lesquels l'homme se prosterne dans son désarroi. Et ceux-ci l'avilissent, le corrompent, l'enivrent, c'est comme une ivresse, et le détruisent, et ainsi le jettent dans les bras de l'illusion pour un temps, alors qu'ils prétendent de libérer de toutes les contraintes, de nous libérer de toutes les contraintes, c'est ce qu'ils prétendent, mais jamais l'homme n'a autant crié son désespoir, ainsi que sa soif de sortir du noir, de ne plus jamais connaître le mal du vide. Bien sûr, j'imagine votre réaction, mais pourrais-je croire en un Dieu que je ne vois pas? Comment connaître ce Dieu qui donnerait enfin un sens à ma vie? Il est exact de dire que nous ne pouvons voir Dieu en face, mais est-ce une preuve suffisante pour affirmer qu'il n'existe pas? Avez-vous déjà vu un atome, des protons, des neutrons ou des électrons? Moi, jamais. Et pourtant, je crois à leur existence comme je crois à l'existence de l'électricité, malgré que je ne la vois pas, car ils la manifestent de diverses manières. Prenez le temps d'ouvrir le livre de la nature pour voir l'empreinte de Dieu dans sa création. Un général romain avait demandé un jour à un de ses esclaves chrétiens de lui montrer Dieu. L'esclave le conduisit dehors en plein midi et lui dit « Regardez le soleil bien en face, assez longtemps, pour voir comment il est. » Le général qui n'était pas tombé du char à échelle, lui a répondu aussitôt « Mais je ne peux pas regarder le soleil en face. Je serai ébloui et voire même aveugle. » L'esclave reprit alors « Tu ne peux pas regarder une des œuvres de Dieu et tu voudrais regarder Dieu lui-même. Là, je te dis que tu tomberais foudroyé. » Et il avait raison. Sans doute savez-vous que Voltaire a été contraint de faire cet aveu « Le monde m'embarrasse et je puis songer que cette horloge existe. » Il ne pouvait pas penser que cette horloge existe et je n'ai point d'horloger. Oui, c'est vrai, la nature tout entière, elle porte l'empreinte de la majesté et de la puissance souveraine ainsi que de la science illimitée et des intelligences parfaites de Dieu. Chers amis, ouvrez simplement ce livre intérieur qui s'appelle « Notre corps, la nature, voire le Saint-Livre » et tout cela s'appelle « Votre conscience ». Oui, ce sens moral qui vous permet de distinguer le bien du mal. Et cette voix secrète, elle vous harcèle, elle vous dérange en quelque sorte, elle vous rend parfois malade d'insomnie. Ne serait-elle pas l'empreinte d'un Dieu pur, saint, parfaitement juste, qui l'a installé là, au plus profond de votre être? Voyez-vous? Ensuite, toutes ces deux dernières révélations sont quand même, malgré tout, incomplètes et incapables de remplir votre cœur de bonheur et de paix. Il vous faut donc ici ouvrir un troisième livre, c'est le Saint Livre, la Sainte Bible, qui nous donne une révélation toute particulière. Et en effet, pas seulement une révélation particulière, précise et suffisante de Dieu. Donc, voyez-vous, cette révélation s'appelle tout simplement Jésus-Christ. Je répète, cette révélation, elle s'appelle Jésus-Christ. C'est son Fils. C'est le Fils bien-aimé de Yahvé l'Éternel. C'est le reflet parfait de la gloire de Dieu et c'est l'empreinte de sa personne. Hébreux, chapitre 1, verset 3. Jésus-Christ s'est présenté aux hommes comme la carte d'identité divine, et ceci à plusieurs reprises. « Celui qui m'a vu, est-il dit, a vu le Père. » Saint Jean, chapitre 14, verset 9. Pourquoi donc Dieu est-il venu habiter parmi nous de cette manière? Pascal l'explique en ces termes. Il y a dans le cœur de chaque homme un vide que seul Dieu peut combler par son Fils Jésus-Christ. Dieu est venu sur terre dans la personne de son Fils pour remplir le vide de notre cœur, de votre cœur. Le Christ est venu pour, on peut dire, réparer les dégâts provoqués en nous par notre indifférence, notre ignorance, nos rébellions, allant parfois jusqu'à rejeter Dieu, notre Créateur et Bienfaiteur, car nous devions être frappés par Dieu à cause de notre mépris, à cause de sa personne et de ses lois. Mais voyez-vous, Dieu a manifesté son amour d'une façon extraordinaire envers tous les hommes en envoyant son Fils unique qui a pris volontairement sur lui tout notre péché, le jugement, le châtiment qui devait frapper chaque créature. Donc, Christ savait qu'il allait mourir sur la croix, et il a connu, en quelque sorte, l'enfer à notre place, car son sang a coulé en rançon pour nos péchés, afin que nous soyons pardonnés par Dieu, que nous soyons réconciliés avec notre Père céleste et que nous soyons libérés de l'esclavage de tous nos faux dieux. Lorsque, au matin du troisième jour, Jésus-Christ sortit vivant du tombeau, cela signifie que la facture de notre péché était définitivement et complètement payée. Désormais, le Christ vivant, parce que maintenant il est vivant plus que jamais pour l'éternité, propose à tous les hommes une nouvelle relation avec Dieu, d'où jaillira l'harmonie intérieure, la paix, la plénitude et une vie abondante. Si quelqu'un, est-il dit, a soif, qu'il vienne à moi, à Jésus-Christ, et qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Venez donc à lui tel que vous êtes, tel que vous êtes aujourd'hui. Changez d'attitude à l'égard de Dieu et dites clairement non à la vie absurde menée jusqu'ici et vous tournant maintenant, aujourd'hui, vers le Christ vivant et invitez-le à devenir votre seul Sauveur. Aussitôt, croyez-moi, il viendra demeurer dans votre être intérieur par son Esprit Saint et prendra la direction de votre vie. Chers amis, vous est-il déjà arrivé de vous poser cette question? Qui suis-je? À cette importante interrogation, d'innombrables réponses ont été données au cours des siècles passés. Le naturaliste allemand Blumenbach, qui est mort en 1840, voyait l'homme comme un animal qui était doué de raison, du langage articulé, de la station verticale et de deux mains. Si vous êtes chimiste, vous définirez peut-être ce même homme comme étant un composé environ de 66% d'eau, 1,20% d'hydrate de carbone, 10,50% de corps gras, 16% d'albumine, et 5,5% de cendres. En bon statisticien, vous le réduirez plutôt à un être dont on peut extraire 7 morceaux de savon, 2300 allumettes, et dont la valeur atteint seulement quelques euros. Dans le prolongement de ces dernières définitions, permettez-moi de vous entretenir d'une certaine conception de l'homme qui se répand actuellement comme un raz de marée et selon laquelle il n'est que de la matière en mouvement, il n'est qu'un conglomérat d'atomes réunis par le hasard. C'est le hasard. Et son intelligence est simplement fabriqué par son cerveau. Il est venu sur Terre tout seul et il s'est agencé tout seul. C'est un peu comme si je vous affirmais que la montre que vous portez à votre poignet s'est fabriquée toute seule et qu'elle se trouve là par un pur hasard. En 1970, je relevais dans un hebdomadaire qui était fort connu en ce temps-là, ces quelques lignes. Tout individu est une création unique de la nature, même s'il appartient à une espèce qui compte des milliards d'exemplaires. L'humanité est entièrement construite sur un plan rigoureusement semblable, mais aucun être ne se répète jamais. Donc, le secret de cette unité profonde et de ces différences, on peut dire, irrécusables, se trouve dans le constituant, excusez-moi, élémentaire de notre corps, la cellule. Car une cellule n'est pas très grande, de 5 à 50 millièmes de millimètre. La science contemporaine estime sa structure est aussi compliquée que celle d'une capitale mondiale et que son fonctionnement interne présente une complexité comparable à celle d'une ville comme Paris. Le professeur Kastler, prix Nobel de physique, a dit lui-même « L'idée que le monde matériel s'est créé tout seul me paraît absolument absurde. Je ne conçois le monde qu'avec un créateur, donc un dieu. » Pour un physicien, un seul atome est si compliqué, si riche d'intelligence, que l'univers matérialiste n'a pas de sens. Et pourtant, cette conception matérialiste progresse à pas de géant et modifie considérablement la manière de penser et le comportement de l'homme aujourd'hui. En premier lieu, elle dévalue et dégrade sensiblement la personne humaine, laquelle est devenue peu à peu un animal producteur, une minuscule dent des rouages économiques du monde, une infime poussière dans la masse. La vie de l'individu n'a plus de valeur en elle-même. Ce qui compte, c'est la masse totale des individus. De plus en plus, l'homme devient un objet manipulé à acheter ou à vendre. Bien sûr, avec ce genre de conception, le sens du respect de la vie s'émousse rapidement et toute morale se trouve progressivement reléguée au musée des antiquités. En second lieu, cette optique de l'homme engendre la nausée de la vie, le pessimisme, le vide et souvent même le désespoir. L'homme réalise au fond de lui-même qu'il est plus qu'un assemblage d'atomes vagabondes. Il se sent enfermé dans un système dur, froid et étouffant, comme un peu un oiseau dans sa cage, alors qu'il est fait pour voler. Et de diverses manières, l'homme essaie de quitter ce ghetto et il crie sa nostalgie d'une autre vie qui serait riche de sens, qui serait riche de liberté et de paix. Dans la Sainte Bible, Dieu nous dit qu'il créa l'homme à son image, à sa ressemblance. L'homme Adam portait donc en lui l'image spirituelle, morale de Dieu. Il était pur comme Dieu, doué de beauté morale, d'intelligence supérieure, et sa personnalité était merveilleusement harmonieuse, et Dieu lui avait fait don d'une profonde sensibilité, d'un amour sans limite, d'une noble créativité, l'imagination, ajoutant à tout cela la possibilité de communiquer par le langage. Et l'homme a été ainsi créé pour Dieu, pour marcher avec lui et pour être son partenaire. Or, une relation d'amour intense existait entre le Créateur et sa créature. Ils étaient faits l'un pour l'autre. Mais un jour, cette harmonie fut rompue. Dieu voulant que l'on marche avec lui librement et non par contrainte, a mis à l'œuvre l'amour de sa créature pour lui. Et par le test des deux arbres, rappelez-vous, dans le jardin d'Éden, pour ceux qui ont lu parfois la Bible, l'homme a dû lui-même choisir entre une dépendance librement consentie à l'égard de son Dieu, riche de bonheur, et d'indépendance aux conséquences tragiques et loin de la source de la vie et du réel bonheur. L'homme préféra d'écouter la voix séduisante et subtile du tentateur, et ce fut la naissance du péché. En effet, le péché est d'abord une attitude d'indépendance orgueilleuse, d'indifférence ou de rébellion à l'égard de Dieu qui nous a créés pour vivre. Il nous a créés pour vivre dans une relation étroite avec lui. Et cette attitude de divorce a entraîné une terrible crise au sein de l'humanité. Donc, le résultat, c'est la souffrance, la maladie, le désordre, la frustration, le vide, la corruption et mort, et la mort. Donc, la mort a envahi le monde et le cœur des hommes. Le virus du péché s'est développé de plus en plus, tandis que l'homme devenait comme une fleur sans soleil. Aujourd'hui comme hier, l'homme est séparé de son Créateur. Il est en guerre avec son prochain et en conflit avec lui-même. Sa vie est vide de sens parce que vide de Dieu. Comme l'a dit le docteur Jung, la névrose principale de notre temps, c'est le vide, c'est le néant. Progressivement, l'homme a beaucoup perdu de cette ressemblance avec Dieu dont l'image est devenue de plus en plus floue et terne en lui. Et pourtant subsistent encore les traces de la main du Créateur dans l'homme d'aujourd'hui, ce qui a fait dire à Martin Luther King que lorsque l'homme se traîne dans la poussière, quelque chose nous rappelle qu'il est fait pour les étoiles. Tant de belles œuvres et de nobles réalisations nous montrent quelque chose de cette image voilée de Dieu dans l'homme. Mais à côté d'elle, que de laideur, que de souffrance et que d'horreur. Oui, chers amis, nous sommes faits pour les étoiles, pour Dieu, comme l'a si bien souligné, saint Augustin. Tu nous as créés pour toi, ô Dieu, et nos cœurs n'ont pas de repos tant qu'ils ne l'ont pas trouvé en toi. C'est ce qu'a dit saint Augustin. Voulez-vous revenir à Dieu pour retrouver cette gloire perdue, cet épanouissement profond et cette paix intérieure après laquelle votre cœur soupire? Vous pouvez revenir à Dieu aujourd'hui et être réconcilié avec lui. Une nouvelle alliance, oui, une nouvelle relation vivante avec Dieu est possible par Jésus-Christ, son Fils, qui est venu sur la terre pour que vous connaissiez la beauté de votre Créateur, que vous connaissiez également sa sainteté parfaite et son amour sans limite. Ceux qui se sont penchés longuement sur la vie du Christ ont été saisis par le désir de vivre comme lui, Jésus-Christ est aussi venu pour proposer à l'homme déchu, qui est condamné, qui est coupable, de devenir un homme nouveau, intimement uni à Dieu. À un docteur religieux d'Israël, Jésus déclarait avec autorité qu'il lui fallait naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire pour faire partie de la famille des hommes dans la vie desquels Dieu règne. Par la naissance physique, nous entrons tous dans la famille des hommes privés de la gloire, de la beauté de Dieu par le péché. Et par la naissance spirituelle, nous entrons dans celle des hommes réconciliés avec Dieu et habités de son Esprit Saint. Cette seconde naissance est un recommencement complet. C'est un vrai miracle produisant un changement profond de mentalité, une manière de voir et de vivre radicalement différente de celle du passé. C'est une métamorphose comme celle du papillon, cet insecte né deux fois, il faut bien le dire. Et cet insecte est entré dans la famille des chenilles par sa première naissance. Il rampe dans la boue, il escalade les brins d'herbe et se nourrit de feuilles de salade. Mais par sa seconde naissance, le voici métamorphosé en papillon. Il est devenu, ou cette chenille est devenue, membre d'une nouvelle famille qui vit dans un nouvel univers. La boue ne le tente plus, ni les feuilles de salade. Il évolue désormais dans l'azur du ciel et au milieu des fleurs. Ça change tout. Qu'il soit de l'Orient ou de l'Occident, qu'il soit du Nord ou du Midi, croyez-moi, l'homme est très souvent enchaîné dans les liens de la sensualité qui le dégrade et qui le ravale, en somme, au rang de la bête, quand ce n'est pas plus bas. L'homme moderne est aussi prisonnier du matérialisme qui fait de lui une machine esclave, chargée de produire et de consommer. Notre abondance occidentale ne nous apporte ni paix de l'esprit, ni sérénité de l'âme. Or, voici ce qu'en pense un écrivain oriental. Vous dites que vos milliers de machines et de robots vous épargnent du travail, mais vous êtes toujours occupé. En multipliant vos machines, vos robots, vous devenez sans cesse plus fatigué, anxieux, nerveux, insatisfait. Quoi que vous possédiez, vous voulez toujours davantage, et où que vous soyez, vous allez encore ailleurs. Vous avez une machine pour extraire vos matières premières, une machine pour les travailler, une machine pour les transformer, une machine pour balayer et épousseter, une autre pour transmettre vos messages, une pour écrire, une pour parler, une pour chanter, une pour voter, une pour coudre et une centaine d'autres pour faire une centaine d'autres choses. Et malgré cela, oui, malgré cela, vous restez l'homme le plus fébrilement occupé du monde. Vos machines et vos robots ne sauvent ni le temps ni l'âme. Ce sont autant d'aiguillons qui vous pressent d'inventer encore beaucoup plus de machines et de robots pour faire encore plus de travail. L'homme d'aujourd'hui est esclave comme jamais auparavant, même sur sa prison et sur celle si tristement célèbre de la santé à Paris, figurent ces trois mots, liberté, égalité et fraternité. Peut-être avez-vous lu ce livre passionnant intitulé Cette nuit, la liberté. Cette nuit, la liberté qui raconte de manière très détaillée l'histoire des dernières semaines de l'Empire britannique des Indes, rendant son dernier soupir dans cette nuit mémorable du 15 août 1947, lorsque 400 millions d'hommes ont trouvé ce que l'auteur appelle la liberté. Mais en réalité, ce fut une nuit d'horreur qui a été suivie par des mois de cauchemars atroces, de guerres sanglantes, et on ne compte pas moins de 10 millions et demi de réfugiés, des centaines de milliers de morts et des millions de blessés dans un pays totalement ruiné, qui a été décimé par la famine et les épidémies, et dont les plaies ne sont pas encore totalement refermées aujourd'hui. Au milieu de ce carnage, un homme courageux et tourmenté allait et venait. C'était le Mahatma Gandhi, ou Mahatma Gandhi, essayant d'arrêter cette boucherie immonde, tentant de ramener la paix et de réconcilier les parties qui s'entre-déchiraient, jeûnant même jusqu'à porter, on peut dire, la mort, sa mort, pour être finalement assassiné par un terrible fanatique. Les auteurs de cette grande fresque historique nous racontent ce qu'elles appellent eux-mêmes, tout au long du livre, les 14 stations du chemin de croix de Gandhi et parlent de sa mort comme d'une seconde crucifixion. Voici d'ailleurs comment la mort de cet homme est annoncée dans un grand journal de l'Inde. Gandhi a été assassiné par son propre peuple pour la rédemption duquel il a vécu. Cette seconde crucifixion dans l'histoire du monde s'est déroulée un vendredi, le même jour que celui où Jésus a été mis à mort. Hélas, ce sacrifice a été un échec. Gandhi ne pouvait pas apporter la véritable liberté, la véritable paix, la vraie conciliation aux Indes, car lui-même était limité. Il était sans puissance, il était pécheur et soumis à ses propres esclavages. Il n'était donc pas réellement libre lui-même. En parlant de Jésus-Christ, par contre, cet homme admirable et exemplaire à bien des égards a avoué: c'est pour moi une torture continuelle de me sentir toujours aussi éloigné de celui dont je sais qu'il est ma vie et mon être le plus profond, c'est-à-dire son Père céleste. Et je me rends compte que ce sont mes imperfections et ma misère qui me retiennent loin de lui. La véritable liberté n'est pas au bout d'un canon ou au bout des baïonnettes. Elle n'est pas dans la promulgation de chartes démenties par les faits. Elle n'est pas non plus le résultat des plus nobles réformes de la société. Elle n'est même pas le résultat de pratiques religieuses ascétiques. La vraie liberté est le fruit d'un affranchissement, le fruit d'une libération intérieure. Elle naît lorsque tombent les lourdes chaînes de nos passions, de nos angoisses et de nos peurs, ce que Dieu appelle notre péché. Jésus-Christ l'a dit lui-même, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » La vraie liberté, seule, le Christ la donne pleinement. Dieu a envoyé son Fils unique sur la terre pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. De même, Jésus-Christ est le seul qui ait été entièrement saint et totalement libre pendant sa vie sur terre. Il n'a pas été esclave du conformisme, ni des classes sociales, ni du racisme ou des castes de son époque, pas plus qu'il ne l'était d'une religion rigide ou de rites étouffants. Il fut libre à l'égard des partis politiques et religieux de tous bords. Il parlait avec la même liberté, le même amour, la même intégrité à tous les hommes, complètement libre à l'égard du péché, qui ne trouvait pas de prise sur lui, ni des chocs, ni d'échec, ni un écho dans son cœur. Donc, il fut libre jusque dans le don de sa vie sur la croix. Et personne ne m'ôte la vie, a-t-il dit, mais je la donne de moi-même. Je répète, personne ne m'ôte la vie, disait-il, mais je la donne de moi-même. Devant les tribunaux iniques qui l'ont jugé, Jésus a fait preuve d'une telle liberté intérieure que ce sont ses accusateurs qui ont fait figure d'accusés. Librement, volontairement, Jésus est monté sur la croix pour nous affranchir de l'esclavage du péché. Dans la nuit de Golgotha, le Christ, en expiant nos péchés, nos rébellions et nos passions, mettait la véritable liberté à la disposition de tous les hommes, celle qui apporte l'épanouissement, qui apporte la paix du cœur, qui apporte la purification de la conscience et le repos intérieur. Le Fils de Dieu n'a pas même été retenu prisonnier de la mort, car ses chaînes n'étaient pas assez solides pour le prince de la vie qui est ressuscité des morts, qui est remonté dans la gloire de son Père, d'où il est prêt à communiquer à chaque homme la véritable liberté. Chers auditeurs et chères auditrices, Christ est venu pour vous libérer de la puissance du péché qui vous tient asservi et de sa présence dans votre vie qui vous condamne à une éternité d'enfer. Reconnaissez votre asservissement et votre impuissance à vous libérer vous-même. Dites-le à Dieu tout simplement et de tout votre cœur. Tournez résolument le dos à votre esclavage passé. Venez à la gloire du calvaire, à la croix de ce calvaire, où le sang de Jésus-Christ a coulé. Il a coulé pour vous purifier complètement de tous vos péchés. Et cela afin que vous expérimentiez le pardon de Dieu. Demandez au Christ vivant de prendre possession de votre vie. Recevez-le comme le seul sauveur et faites-en le Seigneur de tout votre être. Je répète, faites de Jésus-Christ le Seigneur de tout votre être. À l'instant même, maintenant, il vous revêtira de son esprit qui vous donnera la capacité de vivre jour après jour en homme et en femme libérés, affranchis de la servitude du péché. Oui, si le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Et pour terminer, chers amis, j'aimerais vous demander de noter soigneusement et de lire dans le Nouveau Testament les versets suivants. 1er épître de Saint Jean, chapitre 5, versets 11 à 13. L'Évangile de Saint Jean, chapitre 10, verset 10 et le verset 28. Toujours l'Évangile de Saint Jean, chapitre 5, verset 24. Encore Saint Jean, chapitre 3, verset 16. Romains, chapitre 5, verset 8. 1er épître de Saint Jean, chapitre 4, verset 10. Saint Matthieu, chapitre 4, verset 4. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16 et 17. Et Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 41 et 42. Et maintenant, terminons tout simplement par la prière. Prions maintenant ensemble. Père, nous nous émerveillons devant le mystère de ton amour, capable de considérer notre humble rang et qui toutefois peut être concerné par nos faiblesses et nos besoins, alors que tu as tant d'enfants dans le besoin partout dans le monde, avec leurs péchés et leurs tristesses. Et pourtant, par un amour si grand, tu ne cesses de nous écouter. Que nos cœurs soit fasciné par ce miracle et que sa signification captive toute notre volonté. Renforce notre conviction que tu nous écoutes, même en cet instant, lorsque tu entends les doléances de nos cœurs monter vers toi et qu'elles enclenchent les processus de ton amour divin. Un amour qui nous sauvera, un amour qui pas seulement nous sauvera, nous et tous ceux pour qui nous prions. Merci Seigneur de savoir que tu nous aimes et que tu es venu pour nous sauver. Amen. Chers amis, donc, à demain matin pour la suite de cette deuxième série concernant le salut. À bientôt, au revoir.